VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Rwanda, le procureur général du Rwanda, Jean Bosco Mutangana, a annoncé ce mercredi qu'il allait faire appel de l'acquittement le 6 décembre de l'opposant Diane Rwigara et de sa mère pour incitation à l'insurrection. L'accusation n'est pas satisfaite du jugement et nous avons décidé d'interjeter appel dans les prochains jours, a déclaré M. Mutangana lors d'une conférence de presse. Début décembre, Diane Rwigara, qui ne ménage pas ses critiques contre le président Paul Kagame, avait été acquitté d'incitation à l'insurrection et falsification de documents. Des charges qui lui ont valu d'être emprisonné pendant plus d'un an. Sa mère Adeline et quatre co-accusés avaient été également acquittés. Et ils sont tous concernés par l'appel du procureur général. En première instance, les juges se sont prononcés en faveur de l'acquittement en soulignant que les critiques de Diane Rwigara contre le gouvernement rwandais ne constituaient pas une incitation à l'insurrection parce qu'elles s'inscrivent dans le cadre de son droit à la liberté d'expression garanti par la Constitution du Rwanda et les lois internationales. Élections en République démocratique du Congo, la tension monte à 9 jours de la clôture de la campagne électorale. Martin Fayulu, le candidat de la coalition d'opposition Lamuka, qui signifie « réveille-toi », a dénoncé la perturbation avec des balles et des gaz lacrymogènes hier de son meeting à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, dans le sud-est du pays. Après l'étape de Kindu au Maniema, où son avion avait été empêché d'atterrir. Notre correspondant à Lubumbashi, Naoval Mabila, fait le point sur les incidents de mardi.
Martin Fayulu arrive en début d'après-midi à Lubumbashi à partir de l'aéroport international de la Loanou. C'est une foule immense qui l'attendait pour l'accueillir. Christian Kaloumé est membre de la plateforme Lamuka, revient sur l'arrivée de Martin Fayulu.
Malheureusement, nous déplorons le comportement de nos services, dont la police notamment. À quoi bon utiliser les gaz lacrymogènes, leurs pompes à eau chaude pour disperser les gens? Aujourd'hui, on vient d'éprouver que Lubumbashi appartient à certaines personnes. Leur chadari n'a pas de place à Lubumbashi. On vient de le prouver aujourd'hui. Fayulu a fait un plan inimaginable, un grand plan que personne ne pourra contester. Lubumbashi est tombé finalement, c'est la libération.
Déjà tôt le matin, les incidents sont signalés ça et là, alors que le cortège de Martin Fayulu s'est dirigé vers le centre-ville de Lubumbashi. Derrière le cortège, la police tente de disperser les sympathisants à coups de grenades lacrymogènes et canons à eau chaude. Plusieurs véhicules sont incendiés dans certains coins du centre-ville de Lubumbashi, mais les auteurs sont inconnus. Les cortèges de Martin Fayulu est empêché de se rendre sur les lieux du meeting prévu à la cité de jeunes. Crépitement des balles, bataille rangée entre policiers et sympathisants. Des blessés et des morts sont dénombrés. Plusieurs dégâts matériels sont signalés. Écoles, postes de police, tribunal incendiés. Contacté par VO Afrique, le maire de la ville, Ghislain Loubaba, et le porte-parole de la police, le capitaine Charles Bin Luamba, se sont réservés à tout commentaire avant de maîtriser la situation qui, jusque dans la soirée, était incontrôlable. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
Élections en Afrique toujours, le président nigérian Muhammadu Buhari et plusieurs leaders de l'opposition ont signé hier un pacte pour que les élections de 2019 se tiennent dans un climat pacifique. Son principal rival à la présidentielle, Atiku Abubakar, n'était pas présent toutefois. Le point avec Morgan Giriek.
Muhammadu Buhari s'est engagé avec les représentants de dizaines de partis à faire en sorte que les élections générales, prévues en février, soient pacifiques et crédibles. Nous nous engageons à respecter les normes de conduite les plus strictes et encourageons nos sympathisants à en faire autant, a-t-il affirmé lors d'une cérémonie à Abuja. Le texte est quasiment identique à celui signé avant les élections de 2015, mais Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition, ne s'est pas joint à l'accord. Aussi, deux autres figures respectées, comme Donald Duke, ancien gouverneur de l'État de Cross River, et Obi Ezekwesili, ancien ministre de l'Éducation, n'ont pas apposé leur signature. Le président du Comité national pour la paix, Abdul Salami Abubakar, a affirmé que personne n'a été écarté car selon lui, l'accord devait être signé par tous les partis. Au Nigeria, les tensions ethniques et religieuses ont souvent alimenté des violences électorales. En 2011, environ 1000 personnes ont été tuées après la défaite de Buhari face à Goodluck Jonathan.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, un dirigeant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, Abdelmalek Droukdel, a démenti mardi la mort du chef djihadiste malien Amadou Koufa lors d'une opération le 23 novembre de la force française Barkhane. C'est ce que souligne un communiqué diffusé par l'agence de presse privée mauritanienne Al-Akhbar. Plusieurs médias internationaux ont rapporté que le cheikh Mohamed Koufa avait été tué aux côtés de 34 autres militants dans une opération aéroportée. Et la ministre française des armées, Florence Parly, avait salué une action qui a permis de neutraliser, dit-elle, un important détachement terroriste au sein duquel se trouvait probablement l'un des principaux adjoints de Iyad Ag Ali, Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina. Relations Gambie-États-Unis. Le gouvernement gambien a salué mardi la décision des États-Unis d'interdire l'entrée sur leur territoire de l'ancien président gambien Yahya Jammeh, accusé de corruption au cours de ses 22 ans de pouvoir sans partage. La décision américaine est en phase avec l'engagement du gouvernement gambien de combattre la corruption et de garantir l'établissement des responsabilités pour les violations graves des droits humains, souligne le ministère gambien de la Justice. Mozambique, le gouvernement mozambicain a nommé 3 hauts responsables de la RENAMO, le plus grand parti d'opposition, à des postes clés de commandement de l'armée dans le cadre des efforts de consolidation de la paix avec cet ancien mouvement rebelle. Les nominations, à la suite d'un accord conclu en juillet entre le dirigeant par intérim de la RENAMO, Momad Osufo et le président Philippe Nyusi sont au premier pas vers une paix globale, a déclaré mardi le ministère mozambicain de la Défense dans un communiqué. Actualité hors d'Afrique maintenant. En France, le bilan de l'attaque sur le marché de Noël de Strasbourg mardi soir a été revu à la baisse aujourd'hui par les autorités, qui font désormais état de 2 personnes décédées, 7 blessés graves et 7 blessés légers. Aucune explication n'a été avancée pour motiver cette révision du bilan. L'auteur présumé des faits, un homme âgé de 29 ans, est toujours en fuite et est activement recherché par les forces de sécurité. On reste en France où le mouvement des gilets jaunes ne semble pas s'éteindre alors que le gouvernement précise les mesures annoncées lundi par le président Emmanuel Macron. Les détails avec Raïssa Girondin.
Le Premier ministre Édouard Philippe a défendu hier devant les députés les mesures déclinées la veille par Emmanuel Macron. Hausse de 100 euros par mois du salaire minimum, annulation d'une taxe sur les petites retraites et défiscalisation des heures supplémentaires. Chiffrées à environ 10 milliards d'euros, ces mesures promettent de creuser le déficit public. Ces nouvelles concessions ne semblent pas avoir fait retomber la colère, mais les Français restent partagés. Certains veulent la poursuite du mouvement, pendant que d'autres appellent à une trêve. Depuis le début des manifs des Gilets jaunes le 17 novembre, 5 personnes ont été tuées et plus de 1400 blessées. Le gouvernement veut à tout prix éviter une 5e journée de manifestation samedi. Par ailleurs, des députés de gauche ont lancé au Palais Bourbon une procédure pour faire tomber le gouvernement. Cette motion de censure, qui sera soumise au vote jeudi, n'a aucune chance de passer car elle n'est soutenue que par une minorité de députés français.
Actualité américaine pour terminer, le mur à la frontière avec le Mexique, promis par le président Donald Trump, a donné lieu hier à des échanges très tendus entre le président Trump et les leaders démocrates au Congrès à la Maison-Blanche. Compte rendu d'Irénée Hermanoumbo.
Menaçant d'aller jusqu'au shutdown, paralysie de certaines administrations si les démocrates refusent de voter le financement du mur, le président Donald Trump a indiqué que la sécurité aux frontières devait être une priorité absolue. C'est un sujet difficile, nous n'aurons probablement pas d'accord, a martelé M. Trump dans une ambiance très tendue. Je ne pense pas que nous devrions avoir un débat devant les journalistes, a rétorqué Nancy Pelosi, qui devrait prendre la présidence de la Chambre des représentants en janvier. Les Américains pensent que le gouvernement doit rester ouvert, a-t-elle insisté. Les élections ont des conséquences. Monsieur le Président a lancé de son côté Chuck Schumer, chef des démocrates au Sénat. La rencontre marque le début d'âpres tractations. d'action sur la loi budgétaire qui doit être adoptée d'ici le 21 décembre. Un échec des négociations peut entraîner une paralysie partielle de certaines administrations. Les démocrates proposent de débloquer une enveloppe de 1,6 milliard de dollars pour la sécurité aux frontières, mais ont été clairs, pas question d'utiliser ces fonds pour financer le mur, une promesse de campagne de Donald Trump.